Alors, au début de la séquence pédagogique, on voit que les trois enfants sont dans l'activité, y compris Samuel, l'élève non russophone. Samuel apparaît toutefois dès les premiers plans comme plus en difficulté. Alors, on assiste là, d'un point de vue sociologique, à la production non régulée d'une hiérarchisation enfantine et peut-être aussi, hein, d'une certaine forme, de solidarité balbutiante entre enfants, mais en tout cas d'une hiérarchisation enfantine. Il semble, dans cette séquence, qu'Andrei est un ascendant sur Malik. La situation pédagogique, avec la calculatrice, permet à cette asymétrie de s'expliquer. D'abord, l'exercice semble focaliser son objectif sur la rapidité de l'activité. C'est un objectif en apparence peu conciliable avec des ambitions de coopération et de mentorat. Ensuite, les échanges enfantins sont en partie structurés par le russe. Il n'y a donc pas de régulation possible, ou en tout cas facile à faire, ni par l'adulte, ni par Samuel. On se demande aussi s'il n'y a pas des brimades ou du sarcasme, des moqueries, de la sévérité qui sont introduits notamment entre les deux élèves russophones. Et l'échange peut même sembler parfois hein, discrètement ou secrètement dégradant. Par exemple, Andri intervient sur la feuille de Malik physiquement. Il lui déplace la main physiquement, touche la feuille et pointe du doigt avec insistance quelque chose. C'est une attitude réactive de supériorité. Un observateur non russophone qui n'a pas accès à la traduction, un observateur qui finalement hein, voit le monde social tel qu'il se donne à voir, peut considérer hein, que le premier, Andri, va brimer le second. De plus, la mise à l'écart de Samuel dans l'interaction apparaît nettement. L'interaction se centre sur Andrei et Malik assez rapidement, hein, sur ces deux enfants uniquement. Pourtant, à différents moments, Samuel cherche à revenir dans la situation pédagogique. Andrei, du fait de la nécessaire explicitation linguistique, mais aussi parce que la configuration pédagogique en tant que titulaire de la calculette le permet, est dirigiste dans sa manière d'organiser l'activité. Il dit écrit, écrit en s'adressant à Malik et Samuel. Et ensuite, il évalue l'énoncé. Par exemple, l'énoncé 34 fois 20. Il dit ça, c'est plus facile. Mais Andrei est aussi en même temps désemparé dans son rôle d'arbitre. Il ne sait pas vraiment comment aider ni comment faire respecter ce qu'il a compris de la consigne, qui manifestement n'est pas tout à fait ce qu'escomptait l'enseignante. Pour cet énoncé, 34 fois 20, Andri demande à Samuel d'écrire sa réponse et de se concentrer, tandis que lui-même hein, se distrait. Il n'écoute pas la réponse à sa question et revient tout de suite à l'exercice, ce qui révèle de sa part une incorporation plus forte des normes scolaires qui imposent de rapidement revenir aux échanges strictement réservés au domaine scolaire. Et il dit tout de suite à Samuel, Allez, écris, écris ta réponse. Il cherche ainsi à le mobiliser, hein, à mobiliser son camarade, ce qui lui semble difficile. Samuel répond alors, je ne sais pas, Andri n'en tient pas compte, peut-être parce qu'il ne sait pas comment en tenir compte, et il montre alors, non pas à Samuel, mais à Malik, la calculette. Il y a donc un changement de destinataire de l'échange ou de l'interaction, et Samuel en est complètement exclu. Andrei semble lister les différentes réponses de Malik, et on se demande d'ailleurs s'il ne pointe pas les erreurs et qu'il n'attribue pas les bons et les mauvais points. En tout état de cause, Malik semble gêné par cette situation, qu'il comprend hein, pourtant, puisqu'elle se fait dans sa langue première. Alors, quand on prend connaissance de la traduction des échanges, on se rend compte que Malik est relativement performant hein, scolairement, alors que sa gestuelle dans la situation pédagogique indique plutôt une position subalterne. Donc là, il y a une situation où il y a une espèce d'incohérence finalement entre une relative, on va dire, force scolaire dans la réalisation des énoncés et une position corporelle beaucoup plus prostrée, beaucoup plus voilà, de soumission relative. On voit aussi qu'Andrei a davantage une relation de camaraderie avec son camarade Malik, enfin avec Malik, mais Samuel n'a pas accès à la traduction de ses échanges. Donc lui, il ne peut pas accéder en fait à ces informations-là. Il peut donc penser autre chose. La professeure explique qu'Andrei a voulu être vertueux dans son rôle, en tout cas dans le rôle qu'il pensait qu'on attendait de lui. Et à ce moment-là, elle semble réaliser que Andrei n'avait pas compris qu'il devait se centrer sur la procédure et pas sur la rapidité de l'exercice. Mais pour autant, l'exercice s'intitule comme ça, hein, plus vite que la calculette. On peut penser là qu'il s'agit d'une attente implicite de la part de l'enseignante, et donc il y a eu un malentendu hein, socio-cognitif, tel par exemple hein, qu'ils ont été notamment théorisés par Elisabeth Bottier ou par Rayou. Son explication d'ailleurs de cette situation à l'enseignante, elle est intéressante parce que Andrei est dans le rôle de juge, dans le rôle d'arbitre hein, finalement avec la calculette, c'est un petit peu comme le sifflet de l'arbitre. C'est un peu un juge de paix, c'est un peu ce rôle-là qu'il endosse. Et finalement, en fait, il se concentre davantage sur cette fonction-là plutôt que sur l'exercice lui-même. Ce qui peut rendre en fait l'explicitation de la procédure difficile, étant lui-même dans le tâtonnement de son rôle d'élève dans ce contexte-là. Alors Andrei n'a pas vraiment compris qu'il devait demander la procédure à ses camarades. Pourtant, il essaie quand même de le faire avec les moyens qu'il a. Il n'a pas compris en fait non plus ce que signifiait vraiment l'explicitation d'une procédure. Il y a plusieurs manières de procéder dans le calcul mental. C'est pour ça qu'en mathématiques, on apprend plusieurs méthodes. Et lui, il n'a pas bien compris en fait qu'il devait détailler à ce point-là. Et donc là, on voit une confusion hein, de la part d'Andrei sur son regard vis-à-vis de ses camarades. On voit bien qu'il y a un mandat qu'il considère difficile et que voilà, il a l'impression qu'il n'a pas été justement soutenu en fait dans ce mandat. Il y a peut-être un conflit de justice hein, qui s'exprime de sa part où il a l'impression voilà que c'est pas juste en fait cette situation parce que lui-même n'a pas eu tous les éléments pour bâtir son rôle. Plus largement, la non-maîtrise du russe de la part de l'enseignante, alors qu'elle choisit de constituer un îlot pédagogique animé par la langue russe, va placer l'enseignant dans une situation de non-maîtrise et d'impossibilité d'anticiper pédagogiquement, parce qu'elle n'est pas en mesure de diagnostiquer le présent, le réel pédagogique. Et du coup, la possibilité d'anticipation va être obérée, par cette difficulté à lire le présent. Et dans cette situation, la difficulté de prononciation d'Andrei hein, ne semble pas permettre à Samuel de revenir pédagogiquement. Quand Andrei arrive à dire 876 fois 20, Samuel répète mécaniquement 876 comme pour aider son camarade à la prononciation, ou bien pour confirmer que ce mot existe bien en français, enfin pour aider son camarade et ainsi inverser ponctuellement hein, l'asymétrie de l'échange. Ou bien peut-être parce que ce mot lui est connu, hein. Il y a plusieurs hypothèses possibles, mais en tout cas, ça pourrait lui permettre de revenir dans la situation, pédagogique. Donc là, il y a plusieurs interprétations possibles, mais dans tous les cas, il s'agit d'un échange qui tient davantage au soutien linguistique entre pairs que d'un échange strictement lié à l'exercice de mathématiques qui est demandé. Ce qui permet de s'interroger quant au statut de cet échange, dans une langue autre. Et qui est cette interrogation et n'existe que parce qu'il y a l'usage d'une langue autre. Il y a là un malentendu sur les atouts de l'usage du plurilinguisme en classe. En tout cas, on peut se demander s'il y a un malentendu. On assiste là, finalement, dans cette séquence, à la création hétéronormée hein, de l'extérieur d'une proximité ou d'une connivence entre deux enfants russophones. Il n'existe pas nécessairement a priori. Si Samuel ne connaît pas les liens qui peuvent exister entre Andrei et Malik, il peut même penser, de par la situation pédagogique d'asymétrie, de par le fait qu'un élève sur deux détient la calculatrice et que cette détention n'est pas tournante, il peut penser qu'il existe des tensions entre Andrei et Malik. Donc il y a une superposition entre l'asymétrie de la situation pédagogique. Le détenteur de la calculatrice a plus de pouvoir, et une asymétrie possible, hein, on l'ignore, qui existe entre les deux enfants. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que ces deux enfants ont entre eux un niveau d'intercompréhension bien plus important que tous les autres interactants, y compris bien plus important que nous, observateurs. Alors, il est inféré par l'enseignante que cette intercompréhension produit des connivences positives, mais ce peut être aussi l'inverse. Une vue plus claire sur d'éventuelles dissensions ou concurrences pourraient renseigner cette situation. D'autant que les régions du Caucase russophone sont très hétérogènes, que des populations de groupes de confession et d'espaces économiques et sociaux, politiques sont très différents, ils coexistent, qu'il existe entre ces populations des rapports de domination, notamment des minorités musulmanes auxquelles peut-être Malik appartient, et ces dimensions peuvent parfois être importées dans les sociétés d'immigration. Donc on voit là finalement qu'il y a un certain nombre d'implicites, de points de méconnaissance qui nécessiteraient la régulation de l'enseignante, qui, dans le cadre d'un échange qui est non maîtrisé, ne peuvent pas être réalisés.